Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.
Bonjour à toutes et à tous. Voilà, nous sommes après Pourim et à la veille de Pessah. C'est pas par hasard, il y a une notion de continuation. C'est une période qui suit l'autre. Et c'est un message de vie aussi qu'après Pourim arrive Pessah. On va voir un petit peu les détails, qu'est-ce que c'est. Et au milieu, on est dans cette période de lecture de la Torah, parce que ce qu'on lit dans la Torah est lié avec la période. Donc c'est tout un programme, c'est pas seulement qu'on lit une histoire ou bien on lit des ordres, des idées. Les idées sont liées avec la période. C'est toute une construction, toute l'année juive. Il y a des niveaux après niveaux, des étapes après, une étape après une autre étape. Et le fait que Pessah arrive après Pourim, c'est pas par hasard, c'est ensuite, on avance. De Pourim, on avance sur Pessah et on passe par ces lectures qu'on lit. Alors c'est vrai qu'il y a des années où on lit ces parashiot, comme la majorité des années. Et parfois il y a des années où il y a 13 mois dans l'année, à ce moment-là ça bouge un peu. Et il n'y a pas de hasard encore, le parasha est lié avec la période, comme il est marqué, qu'il faut vivre avec son temps. Vivre avec son temps, ça veut dire que, comme ça disait le premier rabbi de Chabad, le 12e, son fils, il a traduit ça, que ça veut dire que la paracha de la semaine, c'est notre mode de vie, et surtout pour la semaine, et pour comprendre ce qui se passe dans la semaine, et comprendre quelque part la construction de notre vie d'une façon générale, et dans notre période ou bien notre semaine d'une façon particulière. Alors, ce Shabbat, on va lire Vayakel, et on a déjà commencé à lire Vayakel, parce qu'il y a cette habitude d'étudier cette paracha, toutes les parachas de la Torah, chaque jour, on les divise en sept. Le dimanche, on lit depuis le début jusqu'à l'époque qui s'appelle Sheni, le deuxième monté, etc., jusqu'à Shabbat, quand on termine la paracha. Donc, alors, on a déjà commencé à lire chacun chez lui, mais Shabbat, on le lit en public. Donc, la paracha de Vayakel. En quelques mots, Vayakel, puisque depuis 4 semaines, on lit le temple. Ça va durer encore une semaine. Il y a 6 semaines qu'on lit sur le temple, d'une façon plus générale. Dans la paracha Terouma, il y avait cet ordre de construire le temple avec des détails. Tu savais, il y a déjà là-bas les vêtements de Cohen, il y a certains sacrifices. Dans la paracha qui dit ça, il y a encore des détails qui n'étaient pas encore dit jusque-là sur le temple. Par contre, là, on lit la faute de Vaudor, les détails, la réparation. Et dans notre paracha, donc ça c'était la paracha de la semaine dernière, et dans notre paracha il évoquait que Moshe, il a réuni la communauté. C'est pas une traduction exacte des mots Vayakel, on va voir, mais on va dire pour le moment ça. Moshe, il a réuni toute la communauté. Il leur a dit ce que Dieu lui a ordonné sur le Mont Sinaï, puisqu'il vient de descendre du Mont Sinaï. Donc il leur passe le message, ce qui s'est passé là-bas. Et alors, comme on a vu dans la paracha de la semaine dernière qu'il y avait l'ordre de construire le temple, et ensuite, à la fin de cet ordre, Dieu il a dit, mais quand même, il faut garder Shabbat. Ça veut dire que même si que le temple est très très important et pourtant, ça ne doit pas aller sur le compte de Shabbat. Ça veut dire que ça ne doit pas bouger Shabbat. Lorsque Shabbat arrive, on arrête tout et on respecte Shabbat. Moshe, par contre, il commence avec un ordre opposé. Il commence par Shabbat et ensuite il passe vers l'ordre de construire le temple. Donc, comme on a l'habitude dans le Montre Hassidique et surtout dans la Torah du Rabbi de Lubavitch, il faut voir tout ça dans notre vie personnelle. Qu'est-ce que ça va dire? Parce que On sait que l'homme, il fait partie du monde, mais en même temps, on dit que l'homme, c'est un petit monde. Donc, alors, ce qui se passe autour de lui, ça passe d'une manière ou d'une autre chez lui, à l'intérieur de lui. Donc, alors, il faut comprendre cette idée par rapport à nous personnellement, par rapport à notre conduite de jour, de chaque jour, de jour en jour. Quel est le message? Alors, on va retourner à cette idée que il y a trois opinions. À quel moment étaient dites les lois des temples? Puisqu'on a déjà vu Rashi, surtout l'opinion de Rashi, parce que dans le Torah, ce n'est pas très clair. Rashi, il explique qu'il y avait trois fois, Moshe, lorsqu'il était sur le Mont Sinaï, 40 jours et 40 nuits, c'était trois fois 40 jours et 40 nuits. La première fois, il est monté pour recevoir la Torah, que c'était tout de suite après les dons de la Torah, les 10 commandements, donc il restait 40 jours et 40 nuits. Et à la fin de cette période, il avait le veau d'or, donc il a descendu, il a fait ce qu'il a dû faire, ce que... il faudrait réparer. Ensuite, il a remonté pour demander pardon, et ça a duré encore 40 jours ou 40 nuits. Et cette fois-ci, à la fin de cette période, Dieu lui demande de descendre, de préparer un autre table de la loi, que Dieu il va graver une deuxième fois sur cette table les 10 commandements. D'ailleurs, bien sûr qu'il faut expliquer ça, pourquoi cette fois-ci c'est lui, c'est pas Dieu, mais en tout cas, on va sauter cette période, cette idée. Et Moshe, il restait 40 jours et 40 nuits, une troisième fois. Alors, ici, on est dans notre paracha, à la fin, donc le lendemain de cette troisième période de 40 jours et 40 nuits, Moshe, il descend, il passe le message de ce que Dieu lui a dit, de construire le temple. Et c'était, ça a créé un joie immense, pour de différentes raisons, mais aussi après l'échec et la faute. La faute de Vaudor, et le peuple juif se sont sentis un peu ou beaucoup perdus parce que c'était une faute qui a rompu beaucoup de choses, les relations entre nous et Dieu. Et à ce moment-là, lorsque Moshe il descend avec un message que Dieu il veut résider parmi vous, parmi nous, donc ce temple, alors d'un coup c'était un soulagement énorme, comme la Torah nous dit pas mal de détails. Et donc ça veut dire que finalement il y a le pardon, on arrivait à accorder le pardon, mais à quel moment s'était dit cette loi? Il y a une opinion que s'était dit déjà la première fois, mais Moshe il a dit que maintenant, parce qu'il n'avait pas l'occasion de tout dire de ce qui a été dit. Donc il a dit maintenant les lois des temples. Donc le soulagement était que Dieu il demande, malgré tout, il demande, ça veut dire que c'est ce que Dieu il a demandé la première fois dans les 40 jours et 40 nuits, il n'était pas arrêté. Donc alors il y a cette demande toujours, mais il y a une autre opinion, que cette demande était après la faute. Donc c'est une manière de réparer la faute par le fait qu'on fasse un acte matériel, un endroit matériel que là Dieu il va résider. Et tous ces détails il faut expliquer bien sûr, mais il y a encore une autre opinion qu'on ne va pas rentrer là-dedans. Donc alors ici de toute façon Moshe il descend pour leur dire voilà, Dieu il veut que vous allez vous construire un lieu pour lui. Mais tout au début de la paracha, il a marqué ce mot Vayakel. Vayakel, ça veut dire il a réuni. C'est intéressant de voir les différents livres, comment on traduit ces mots, parce que ces mots, on peut les traduire de différentes manières, on va voir tout de suite. Mais d'une façon générale, Moshe, il a descendu et il a réuni la communauté pour leur dire les paroles d'Hachem. Le problème, c'est qu'en hébreu, tout d'abord, le mot Kahal, ça veut dire une communauté. Vayakel, ça veut dire il a réuni et il a fait en sorte qu'il y aura une communauté. Donc il a réuni la communauté. Mais le mot Vayakel en hébreu, dans la grammaire hébraïque, il devrait dire Vayakil. Ça veut dire il a fait réunir. Vayakel, ça veut dire il a fait qu'il soit réuni. C'est pas la même chose et c'est bizarre. Et là, Rashi essaie d'expliquer, il y a une longue explication du Rabbi qui fait très attention à ce que Rashi dit, mais D'une façon générale, le rabbi explique comme ça. Là aussi, je vais passer parce que c'est assez long et profond. C'est qu'effectivement, lorsque Moshe, encore une fois, un détail qu'il faut dire, c'est que Moshe, il a descendu de Mont Sinaï, là, la troisième fois, le jour même de Kippour. En fait, c'est qu'on fête aujourd'hui Kippour. Aujourd'hui, on a le jour de Kippour. Le jour de Kippour, au niveau historique, c'est quoi? Parce que chaque fête, c'est pas seulement une fête qu'on a décidé, voilà, tel jour, ça va être telle chose. C'est, il y a quelque chose, une base au niveau historique. L'histoire de Yom Kippour, que c'est un jour de grand pardon, elle y est avec, au niveau historique, c'est là où Dieu il a accordé le pardon sur la faute de Vaudor, mais avec joie. Ça veut dire qu'il y avait avant l'accord, mais l'accord de pardon était limité. Ok, je te pardonne, je vous pardonne, mais il y a un mais, il y a un grand mais. Mais par contre, comme il est marqué dans la Torah, et d'ailleurs dans la paracha de ce qu'on a lu ces derniers Shabbat, il y avait un amour, une volonté, ça veut dire comme quelqu'un qui non seulement qu'il pardonne, c'est comme si rien n'a été, et plus que ça, l'amour est beaucoup plus grand comme quelqu'un qui s'éloigne, il se rapproche. Et donc, ça c'était le jour de Kippour, le jour de pardon, mais un vrai pardon, un vrai pardon, et comme, non seulement qu'on efface le mal, et parfois, on utilise le mal pour le bien. En tout cas, c'est un vrai pardon. Et depuis, ce jour devient le jour du pardon. La première fois, donc, c'était le pardon, le grand pardon de ce qui le manquait. Donc, à la fin des 40 jours, la troisième fois, où Dieu il accordait le pardon sur la faute de Vaudor avec joie. Donc, il accordait avec joie, avec beaucoup de miséricorde, il accordait ses pardons. Ce jour même, Moshe il est descendu en bas. Et naturellement, lorsque Moshe il est descendu au bout de 40 jours, la communauté se réunit sans que Moshe doit faire quelque chose. Parce que les gens étaient tellement angoissés, tellement de mal pour la faute qu'on a fait, que tout le monde voulait savoir ce que Moshe il a à dire maintenant. Imaginez-vous la scène, quelqu'un qui il y a un problème, et quelqu'un, c'est lui qui, le porteur de message, il vient, tout le monde réuni autour de lui pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer, donc qu'est-ce que Dieu il a dit. Donc alors, en Moshe, il ne devrait pas réunir la communauté, ils se sont réunis d'eux-mêmes. Mais puisqu'ici le marquait « Vayakel », Moshe il a réuni, ça veut dire que c'était après. Et comme Rashi nous dit, c'était pas le jour même de Kippour, c'était le lendemain. Et le rabbi explique, encore avec beaucoup de détails, beaucoup de profondeur, que le jour même de Kippour, Moshe, il n'aura rien à dire de ce qui a été dit là-haut, parce que, en fait, c'est pas exact, non, il a dit, mais pas, rien à dire par rapport à ces lois de Shabbat et surtout de temple, parce que ils se sont, il faut séparer les choses, si on mélange tout, alors on ne prend pas, on ne fait pas les choses bien. Donc, le jour de Kippour, lorsqu'il a descendu, Moshe, il leur a juste passé le message de pardon. Il leur a raconté le message de pardon. Et donc, ils se sont réunis autour de cette idée de pardon que Hachem il a pardonné. Mais l'ordre, peut-être il a dit certainement quelques lignes par rapport à ce qui a été dit là-haut par rapport à l'ordre de construire un temple, mais c'était juste quelques lignes à savoir que ça existe, mais le lendemain, il a réuni la communauté. Donc cette fois-ci, les gens ne se sont pas réunis d'eux-mêmes, parce qu'ils se sont réunis déjà, et c'était d'une façon automatique, les gens se sont réunis le jour de Kippour même. Là, on est le lendemain, donc ils devraient réunir, mais cette fois-ci, pour leur passer le message des temples, et comme on a dit tout à l'heure, il a commencé par Shabbat. Alors, à ce moment-là, pourquoi il manquait qu'il a fait qu'il soit réuni? On a dit tout à l'heure que le mot Vayakel, normalement, Vayakil, ça veut dire il a réuni. Vayakel, ça veut dire il a fait qu'il soit réuni. Pourquoi il manquait comme ça dans la Torah? Et c'est pour ça que Rachel dit que ça se fait, ça se dit. Ça veut dire que puisqu'on ne réunit pas les gens avec les mains, on fait que les gens parlent des paroles, on dit des mots et les gens se réunissent, donc on peut appeler Et ça, il a fait qu'il soit réuni. Ça, c'est au niveau pratique. Mais au niveau profond, il y a des choses à expliquer, mais on peut dire comme ça que... Alors là, il faut ouvrir un chapitre et dire comme ça que dans le judaïsme, on sait qu'il y a tout et son contraire. Parfois, on se perd parce qu'on ne sait pas ce que la Torah nous dit. La Torah nous veut, elle nous dit une chose, ensuite on a l'impression qu'elle dit le contraire dans certains domaines. Et ça manque de compréhension. Par exemple, si on va parler d'une notion de l'importance de chaque individu d'une part, et en même temps que tout le monde font partie d'un ensemble. C'est une opposition. Si on fait partie d'un ensemble, donc alors les détails ne sont pas très importants. Chacun il fait qu'un détail. Chacun il fait qu'un chiffre. Chacun il fait qu'un virgule. Lorsqu'on dit par contre que chacun il a son importance à part, alors à ce moment-là on n'est pas réunis, on ne peut pas se réunir parce qu'on est différent. Donc alors, d'une part, on nous dit qu'on est tous pareils. D'une autre part, on nous dit qu'on n'est pas du tout pareil. Et ça pose un problème. Alors, la vraie réponse, c'est que ce n'est pas une opposition. En même temps, on est différents. En même temps, on est tous pareils. Et là, c'est un sujet très large, bien sûr. Mais c'est vrai que d'une part, comme il est marqué, que Dieu nous a créés différents. Il est marqué dans le Talmud, de même que les visages ne sont pas pareils, on n'a pas deux personnes qui ont le même visage, ça n'existe pas. Même des gens qui ressemblent beaucoup comme jumeaux, mais si on regarde bien, si on le connaît bien, on voit les différences. De même aussi, les opinions ne sont pas pareilles. Les opinions, pour voir les opinions, il faut bien sûr se pénétrer là-dedans, il faut étudier des choses profondes, et là on voit que les gens ne sont pas du tout de la même avis. Ce n'est pas parce qu'ils sont têtus, parce qu'ils ne voient pas les choses pareilles. Et pour ça, il faut étudier, bien sûr, parce que si on n'étudie pas, on parle que de la pluie et des bons temps, alors on ne voit pas forcément les différences entre les gens, mais quand on rentre dans le monde d'études, dans le monde intellectuel, là, ça développe énormément les différences, à tel point que parfois on a du mal à trouver, à faire un pont entre les différentes opinions. Et pour ça, il faut pénétrer dans la Torah, et par exemple le Talmud, que plus qu'on pénètre dans le Talmud, on voit des divergences des opinions d'une façon extraordinaire qu'on ne peut pas comprendre comment on peut réunir les différences. Chaque détail dans le Talmud, alors déjà, le Talmud, on trouve des différentes opinions sur presque chaque détail. Là, il dit comme ça, l'autre, il dit comme ça. Il y a une histoire classique. Il y avait un enfant qui devrait être interrogé. Il y avait une interrogation et il ne savait pas grand-chose. Il disait à son père, je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas appris. Qu'est-ce que je vais faire dans cette... comment je vais aller, parce que je ne suis pas prêt. Et son père, il dit, c'est simple. Sur chaque détail, sur chaque question qu'on va te poser, tu vas dire qu'il y a deux opinions. Et que ce n'est pas toujours faux. En fait, c'est souvent vrai. Le problème, c'est que parfois, il y a plus que deux opinions. Mais c'est comme ça, le Talmud est rempli de différentes opinions. Alors, si c'est comme ça, donc on ne peut pas se réunir. Et le Talmud nous dit... Si, d'une part, on est différent, d'une autre part, on doit se réunir. Pas seulement quand on doit se réunir, quand on voit les choses d'une façon profonde, alors à ce moment-là, les différences sont quelque chose qui, au contraire, qui réunit les différences, comme l'exemple que j'aime bien, l'exemple de la musique. Il y a parfois... où on a beaucoup d'instruments de musique et apparemment là c'est sur le compte de l'autre, mais finalement si on joue bien et si on fait les choses bien, alors non seulement que c'est pas une opposition, c'est au contraire une harmonie. Et c'est comme ça qu'on regarde sur la vie en général et sur la vie juive en particulier, mais sur la vie d'une façon générale, il y a des différences, il faut développer les différences. Développer les différences, ça veut dire, ça dépend de quoi on parle. Il ne faut pas absolument faire en sorte qu'on va être différent l'un et l'autre. Ça veut dire que s'il y a une différence, chacun doit aller donne l'essence. Dans certains cas, c'est pas aussi simple, c'est pas aussi évident que ça, mais d'une façon générale, Dieu il a créé les différences, la vie elle est remplie de différences. Il faut savoir marcher avec. Il y a des grandes familles, et parfois on donne des conseils dans le monde juif, souvent il y a des grandes familles. Et c'est vrai que chacun doit avoir son importance. Et c'est pas simple parfois, quand on sait pas comment faire. Là, il a telle responsabilité, l'autre, il a telle responsabilité. Si les enfants, ils sont tous pareils, ça marche pas toujours. Il faut voir, on n'est pas tous pareils. Parfois, ça marche, parfois, ça marche pas. Mais parfois, il peut y avoir un drame. Parce qu'il y a un enfant, deux, trois, qui ne trouve pas leur place. Parce que tel, il a déjà pris ce rôle. L'autre, il a déjà pris l'autre rôle. Et qu'est-ce qu'il reste avec l'autre? Il est aussi, il fait partie, c'est encore quelqu'un. Et ça, c'est très dangereux pour la construction de l'enfant, s'il est encore quelqu'un. Il doit trouver, il doit développer son identité au maximum. Alors, s'il développe son identité au maximum, alors à ce moment-là, il va développer les différences, donc ça va développer les déchirures parfois. Moi, je suis comme ça, toi, tu es comme ça, je ne pense pas comme toi. Alors, le judaïsme, il pense qu'au contraire, si on développe via les différences, à ce moment-là, ça crée une harmonie. Encore une fois, ce n'est pas automatique, il faut savoir les diriger, mais c'est comme ça que on les voit. Maintenant, on va revenir à notre paracha parce qu'on a essayé de voir ça d'une façon plus générale dans notre paracha. Donc, le nom de la paracha, c'est Vayakel. Moshe, il a réuni. Plus que ça, on a dit que Moshe, il a fait qu'il soit réuni. Ça veut dire il a révélé l'union. C'est pour ça qu'il a marqué Vayakel. Il a fait qu'il soit réuni. C'est pas qu'il a réuni. Il a fait qu'il soit réuni, que le peuple soit réuni. Quel rapport avec la paracha? Là, on parle des temples. Alors, l'idée des temples, on a posé plusieurs fois la question, pourquoi Dieu il a besoin d'un temple dans ce monde? À quoi ça sert? Est-ce que Dieu il a besoin d'une habitation? Sinon, il va être homeless. Ça veut dire quoi? En fait, c'est bien sûr que c'est une blague, mais qu'est-ce que ça veut dire par rapport à Dieu? Alors, il y a des différentes manières de voir les choses, mais surtout, c'est pour nous. C'est pas pour lui, c'est pour nous. Il y a aussi une notion que c'est pour lui, mais là aujourd'hui on va parler plutôt de cette notion que c'est pour nous. L'idée c'est simple, puisqu'on est dans un monde très compliqué, où il cache la vérité, et donc il cache notre identité. Dieu il a créé un monde qu'on ne comprend pas, ce monde. On ne comprend pas, on voit comme... on ne comprend pas qui nous sommes. Il faut apprendre à chercher qui nous sommes. On ne connaît pas notre corps, notre propre corps, jusqu'à le moment où on étudie. On ne connaît pas le monde autour de nous, jusqu'à le moment où on étudie encore, on est loin. Alors bien sûr qu'on ne va pas connaître Dieu dans ce monde. Donc Dieu il a fait en sorte qu'il y aura un endroit dans le monde où il y aura une révélation divine. Et comme il est marqué dans la Torah, comment, de quelle manière Dieu révélé dans ce monde, comme c'est expliqué ailleurs. Donc, le temple, c'est un endroit où Dieu, il trouve d'une façon claire et visible, si on peut dire comme ça, dans un monde obscur. Donc, dans ce monde obscur, il y a un endroit éclairé. Mais grâce à cet endroit éclairé, ça éclaire tout. Ça veut dire que ça nous donne une idée à quoi ressemble le monde. Ça nous donne une idée comment on regarde le monde. Ça veut dire que lorsqu'on trouve le poids qui réunit, alors à ce moment-là, on comprend le lien entre l'un et l'autre. Sur chaque chose de la vie, si on va prendre une voiture, alors on peut voir beaucoup de détails, mais on peut voir une idée générale. C'est une voiture. C'est une voiture avec beaucoup de détails, mais tous ces détails sont là pour réunir. Ça, c'est notre regard sur le monde. On a un monde avec beaucoup de détails, mais tous les détails vont vers la même direction. Ça veut dire qu'il y a un but dans ce monde. Et c'est ça aussi l'idée des temples. C'est cet endroit là où il y avait la révélation de Dieu, c'est un endroit où ça réunit tout le monde, ça nous montre quel est le but de notre monde. Alors c'est vrai que ce n'est pas partout. Partout où ça passe par notre propre réflexion, une fois qu'on était dans le temple, alors à ce moment-là, on a compris le message, donc on éteint ce message, mais meilleur. Mais l'idée, c'est qu'il y a un endroit dans le monde, que ça nous donne une idée de notre monde, ça nous change l'idée sur le monde, et ça fait le poids d'union. Et à ce moment-là, on peut comprendre les détails, mais les détails, à ce moment-là, ce n'est pas des détails, c'est les détails qui font partie des choses générales. Et non seulement ça, ça veut dire qu'il faut qu'il y aura des détails. Parce que s'il manque dans les détails, il manque dans le général. Et ça, c'est cette vision que le temple nous donne. Ça, c'est une vision générale. Il y a les gens qui voient des choses, mais ils ne voient rien. Ils voient les détails. Quand on étudie un sujet difficile, alors il y a quelqu'un qui va nous dire « Ah, j'ai vu ça et ça et ça et ça ». Mais il ne voit pas qu'il y a une ligne directrice qui... une idée ici. Il saute, il ne voit pas l'idée, il ne voit pas l'idée que tous ces détails mènent vers cette idée, il voit plutôt les détails. Donc, cette personne, il n'a rien compris. Et c'est aussi la vision, comment on regarde sur notre monde. Et la majorité des gens, ils regardent sur notre monde comme un ensemble de détails, et donc on n'a rien compris. Par contre, quand on voit dans ce monde que cet ensemble de détails mène vers un but, et font partie d'un but, alors à ce moment-là, pour ça, il faut avoir une réflexion très profonde, et comprendre, et réfléchir, mais c'est ça la vérité de notre monde. Et c'est pour ça que notre parasha, quand on va parler des temples, elle va parler de Vayakel, ça veut dire Moshe, il a réuni la communauté. C'est vrai qu'il a réuni, il a fait qu'il soit réuni, parce que comme on a dit tout à l'heure, que dans le temple, le but du temple, c'est d'une part faire une vision globale d'un ensemble. Donc c'est pour ça que ça commence par la communauté elle-même, ensuite ça va vers d'autres, vers le regard général de le monde, qu'on fait partie d'un ensemble. Et ensuite, bien sûr qu'une fois qu'on a ce regard général, à ce moment-là, les détails, on comprend comment chaque détail, d'une part, il fait partie d'ensemble, mais d'une autre part, quand chaque détail, il est important à part, parce que s'il il manque ce détail, il va manquer dans l'idée générale. Donc, c'est ça l'idée. C'est pour ça que les deux parachutes, comme ça explique le rabbi, ils ont deux noms. La parasha de cette semaine, elle s'appelle Vayakel. La parasha de la semaine prochaine, que cette année, assez, c'est pas souvent, mais assez, cette année, on lit ces deux parashiot à part, parce qu'il y a des années, et très souvent dans les années, on les lit ensemble. Vayakel et Pkudei. Cette année, on lit Vayakel à part, Pkudei à part, pour de différentes raisons d'organisation, c'est comme ça. Et donc, Vayakel, ça veut dire réunir. Pkudei, ça veut dire détail. Et cette année, donc, alors on a vu que si on a un vrai regard dans le monde, alors la vision générale, si on a une vision générale du monde, alors on voit comment tous les détails font partie d'un ensemble et comment l'ensemble, il a besoin de tous ces détails. Mais pour la bonne conduite, alors parfois, on a besoin de plutôt se baser sur la notion de trouver plutôt ce qui unit tous les détails. Et parfois, on travaille plutôt sur ce qui divise, pas divise, on est sur une division qui différent l'un et l'autre. Les années où on lit Vayakel à part et Pkudei à part, ça veut dire union à part, je ne vais pas utiliser le mot. L'idée de différence, les différences. Alors, ça veut dire qu'il faut travailler sur les deux notions à part. Et à ce moment-là, c'était la dernière fois où le rabbi l'a parlé, il y a déjà 33 ans. Il a dit qu'aujourd'hui, surtout, il faut se baser sur la notion d'union. Même si que l'union seule, ce n'est pas bon, parce que l'union, il doit prendre en compte les détails, mais parfois, il faut se baser sur l'idée de général de l'union, même si on perd un peu, en fait, ça c'est moi qui traduis comme ça. Parfois on perd les détails, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est plutôt l'union. Mais, comme on a dit tout à l'heure, d'une façon générale, le regard de la Torah, c'est que dans l'union, il y a des détails. Il faut avoir l'union, il y a les détails. Pour donc terminer, on a dit comme ça que cette période, on est cette paracha, ça nous ouvre un petit peu les yeux sur ce qui se passe autour de nous. Et aussi, c'est lié avec la suite des Pourim et des Pessahs. Ce qu'on peut dire, Pourim, c'est une fête de détails. On a dit qu'il y a des biens, il y a des mauvais, il y a des gentils, il y a des méchants, on fait bien la différence, ça c'est bon, ça c'est mauvais. Mais on a vu aussi qu'à la fin des Pourim, on se base sur l'idée que même si qu'il y a des différences, mais tout a été fait pour un but. Ça veut dire que c'est vrai qu'il y a des bons et des mauvais, mais on a une compréhension profonde à la fin des Pourim. Ça, c'est la notion d'ad et loyada, il est marqué qu'il faut voir. Jusqu'à le moment où on ne fait pas les différences entre bien et du mal, alors il faut expliquer ça, que ça veut dire qu'il faut toujours faire les différences entre le bien et le mal. Et parmi les explications, parce qu'il y a d'autres, qu'un regard simple, c'est savoir que ça c'est bon et ça c'est mauvais. Un regard profond nous mène à penser que même le mal, il y a une place dans le monde. Alors c'est sûr qu'on refuse le mal. Mais une fois que le mal est déjà là, il faut comprendre comment ça fait partie d'un ensemble. Donc c'est un petit peu la même idée de ce qu'on est en train de lire, voir réunir tous les détails et voir comment tout ça mène vers un but. Et puisque donc on est dans une période, ça aussi, il faut comprendre de lire les événements. Il y a des événements qui se passent dans le monde et parfois on ne lit pas bien les plombs. On lit mal. Il y a ceux qui vont nous dire « Ah, ça veut dire que ça et ça et ça, et ça nous mène à ça et ça et ça. » Il y a ceux qui vont nous dire le contraire. « Ah, c'est le contraire. » Il y a quelqu'un qui va voir dans un problème un échec. Il y a l'autre qui va dire « Ah, s'il y a ce problème, ça veut dire qu'après ça, il y aura ça et ça et ça. » Qui a raison? Bien, alors c'est pas toujours évident de dire, mais il y a plusieurs regards dans la vie juive. Le rabbin nous a, et la vie générale, le rabbin nous a dit qu'on est dans un monde qui n'est pas simple, il est compliqué, mais tout ce monde et tous ces détails, tous ces problèmes, finalement, et surtout toutes ces solutions qu'on trouve dans le monde, nous mènent vers cette période messianique où à ce moment-là, ça va être un monde général de temple, où on va comprendre notre monde. C'est surtout, ça veut dire que quand on est mal, c'est parce qu'on ne comprend pas le système. Et donc on va dans l'obscurité. Mais lorsqu'on comprend comment tout s'enchaîne, et il y a un projet divin, donc comme l'idée de Vayakel, ça veut dire qu'il y a un projet d'union, il y a un projet qui va vers la direction, et tous ces détails, comme certains le disent, tous les schémas mènent vers... oui, alors tout ce chemin mène vers un but, même si que parfois on a l'impression qu'on recule, mais en vérité on avance. Ça c'est la vision que le rabbin nous a appris. Donc c'est ça, le regard que le monde, il a un but, mais il faut avoir ce regard. C'est pour ça que le temple nous donne cette vision. En tout cas, aujourd'hui qu'on n'a pas le temple, ça nous invite quand même. On nous invite quand même à réfléchir dans cette direction, comment c'est vrai que le monde n'est pas simple, on ne peut pas être naïf pour dire que tout va bien. C'est clair, surtout maintenant, que ça ne va pas bien, mais en même temps, voir comment tous ces détails mènent vers une période meilleure, une période de Mashiach, une période de paix. Merci pour votre écoute et bonne préparation pour la fête de Pessah et à la semaine prochaine. Merci beaucoup.
Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.